Le cercle rouge de Edgar Wallace. Chapitre 28. Un coup de feu dans la nuit. L'inspecteur Parr ne devait pas avoir moins de 50 ans. Et Jack calcula rapidement l'âge que pouvait bien avoir cette extraordinaire grand-mère qui se plaisait à des histoires de crimes et savait mettre de l'ordre dans la maison. « Ça doit être une personne très originale, » hasarda Jack. « Et je suppose que l'histoire du cercle rouge l'aurait beaucoup intéressée. »«
Elle ?» s'écria Parr. « Mais si elle était à ma place, ces scélérats seraient déjà tous sous les verrous. »
Tant que dura la conversation, le jeune homme se demanda pourquoi la salle à manger donnait une impression de désordre, quoique en apparence tout fût à sa place. Mais il n'eut pas le loisir de réfléchir beaucoup à ce problème, car ce soir-là, Parr était d'humeur particulièrement loquace. Il alla jusqu'à confier à Jack les reproches que lui avait adressés le préfet.
« Naturellement, dit-il, le gouvernement n'est pas en bonne posture devant l'opinion publique quand une pareille série de crimes reste impunie. En fait, je crois que depuis l'affaire Ripper, il ne s'était pas produit une telle orgie d'assassinats. C'est la première fois depuis 50 ans que nous sommes en présence d'une véritable organisation criminelle. D'habitude, ces associations se détruisent d'elles-mêmes, car elles ne peuvent subsister que sur la fidélité réciproque de chacun de leurs membres. Je n'en ai jamais vu dont les complices ne se trahissent pas très vite les uns les autres. Dans le cas du Cercle Rouge, il doit y avoir un chef qui ne se confie à personne. Aucun de ses complices ne peut le trahir pour la bonne raison qu'il ne se laisse pas connaître. Et ils ne peuvent se trahir entre eux s'ils ne se connaissent pas non plus les uns les autres. »
Il continua à entretenir Jack de plusieurs affaires célèbres auxquelles il avait été mêlé. Et il était plus de 11h30 lorsque le jeune homme se leva en s'excusant.
« Je vous accompagne jusqu'à la grille, » dit Parr.
« Votre voiture vous attend ?»«
Non, je suis venu en taxi. »
« Je croyais avoir vu une auto arrêtée devant la maison. Nous n'avons guère de propriétaires d'auto dans le voisinage. Ce doit être la voiture d'un médecin. »
Il ouvrit la grille et, comme il l'avait dit, une auto noire était arrêtée à quelques mètres.
« Il me semble avoir déjà vu cette voiture quelque part, » dit l'inspecteur.
Il fit un pas hors de la grille. Au même instant, une détonation éclata en provenance de la voiture et Parr tomba dans les bras de Jack Beardmore. Une seconde plus tard, l'auto avait déjà pris de la vitesse. Elle n'avait aucune lumière arrière et elle disparut comme une ombre au détour de la rue. Un agent de police, arrivé au bruit du coup de feu, aida Jack à transporter Parr dans la salle à manger. Sa vieille tante était heureusement allée se coucher et n'avait apparemment rien entendu. Le chef de la sûreté ouvrit les yeux.
« C'eût été un mauvais coup, » dit-il. « Mais avec cela, ça ne sera qu'une contusion. »
Il ouvrit son gilet et cueillit entre le pouce et l'index la balle à la surface bossuée de sa cuirasse.
« Nous sommes trois personnes à Londres à porter ces sortes de cottes de mailles, » dit Parr. « Le chef du cercle rouge en est une, dit-on. Je suis la seconde. Et Talia Drummond est la troisième. »
Après un long silence, il demanda à Jack de vouloir bien téléphoner à Yale.
« Il va être surpris, » dit-il.
Ce fut le cas. Derrick Yale arriva moins d'une demi-heure plus tard, en grande hâte.
« Je ne voudrais pas que vous preniez ce que je vais dire pour un mauvais compliment, » dit-il à part.
« Mais vraiment, vous êtes le dernier à qui j'aurais cru que ces brigands veuillent s'attaquer. »
« Merci, »
répondit le chef de la sûreté.
« Je vous répète que ce n'est pas un mauvais compliment. Je veux dire que je ne les croyais pas capables de lancer un tel défi à la police. Maintenant, je dois vous dire que ma secrétaire, Talia Drummond, m'a demandé l'adresse de votre domicile particulier ce matin même, car elle ne figure pas, comme de juste, dans les annuaires.
Que lui avez-vous répondu ?
Que je ne me rappelais pas, sur le moment. J'ai pensé après coup qu'elle avait à sa disposition mon livre d'adresse personnelle où figure la vôtre. Pourquoi donc a-t-elle pris la peine de me poser la question ?
Entendant cela, Jack soupira profondément.
« Vraiment, Yale, » hasarda-t-il, « vous n'allez pas soupçonner Miss Drummond d'avoir tiré ce coup de revolver sur M. Parr ? C'est ridicule ! Je sais qu'elle a commis de petits vols, mais de là à assassiner quelqu'un ! »
« Oui, et je suis peut-être injuste envers cette petite, » répondit Yale.
« Laissons cela. J'ai d'ailleurs d'autres préoccupations. »
Il tira une carte de correspondance de sa poche et la tendit à part.
« Qu'est-ce que vous dites de cela ?
Quand l'avez-vous reçu ?
C'était dans ma boîte aux lettres, mais je ne l'ai pas regardée depuis midi. N'est-ce pas incroyable ?
La carte portait la marque traditionnelle du cercle rouge et disait « Vous êtes du côté perdant. Mettez-vous de notre côté et vous serez amplement récompensé. Si au contraire vous persistez dans votre œuvre actuelle, vous mourrez le 4 du mois prochain. »
« Cela vous donne une dizaine de jours ?»
observa sérieusement Parr, qui parut fort affecté par cette nouvelle menace.
« 10 jours !»
murmura-t-il.
« Naturellement, je n'attache aucune importance à cet avertissement, » dit Yale gaiement.
« Quoique, après mon expérience de l'autre jour, je commence à croire que ces gens ont des facultés surnaturelles et diaboliques. »«
10 jours !»
répéta encore le chef de la sûreté.
« Avez-vous des projets ? Où pensiez-vous vous trouver le 4 du mois prochain ?
Je devais aller à Deal pour une partie de pêche. Un de mes amis doit me prêter un bateau. Et je pensais passer la nuit en mer. Oui, et c'était pour ce jour-là.
Vous ferez ce que vous voudrez, mais nous ne vous laisserons pas seuls,
dit Parr avec autorité.
Et maintenant, je vais me reposer. Remercions le ciel d'avoir permis que ma tante n'ait rien entendu et que maman ne soit pas là. »
Il dit ces derniers mots à l'intention de Jack seul, qui lui adressa un sourire de connivence.